Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 14 septembre, au Mali, la junte annule les festivités de l'indépendance et évoque la mobilisation des réservistes, alors que la situation se dégrade dans le nord du pays. Suite aux inondations meurtrières en Libye, l'aide internationale s'intensifie. Ici aux États-Unis, à moins d'un accord de dernière minute, le puissant syndicat de l'automobile s'apprête à lancer une grève chez les trois grands constructeurs américains. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Mali, la junte a annulé les festivités de l'anniversaire de l'indépendance du pays le 22 septembre. Elle envisage la mobilisation des réservistes face à la montée des tensions dans le nord. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les activités festives pour célébrer l'indépendance du Mali seront sobres et dans l'esprit du sursaut national. C'est ce qu'indique un communiqué du Conseil des ministres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a ordonné au gouvernement d'allouer les fonds prévus pour ces festivités à l'aide aux victimes d'une série de récentes attaques et leurs familles. Il a exprimé sa profonde affliction face aux pertes causées par l'attentat contre le bateau Tombouctou et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem. Les groupes armés à dominante Touareg dans le nord ont lancé mardi une offensive contre des positions de l'armée dans la garnison de Bourem. L'armée malienne a repoussé l'attaque. Une succession d'attaques récentes ont eu lieu à Bamba le 7 septembre et Gao le lendemain. Des tirs de roquettes sur un bateau de transport de passagers sur le fleuve Niger a tué des dizaines de civils la semaine passée. L'aéroport de Tombouctou est toujours fermé après des tirs d'obus. L'état-major malien dit avoir mené mercredi une série de frappes aériennes contre des terroristes dans le nord. Les séparatistes ont assuré pour leur part avoir abattu un avion de l'armée malienne à Al-Moustarat.
Toujours au Mali, Adama Ben Diarra, appelé Ben le Cerveau, connu pour son activisme en faveur de la junte, a été condamné ce jeudi à Bamako à 2 ans de prison, dont 1 en ferme, après avoir émis des critiques contre le pouvoir. Il était poursuivi pour atteinte au crédit de l'État. Ses avocats, Maître Demba Traoré et Mamadou Camara, ont dit qu'ils feraient appel. Au Nigeria, il y a eu une coupure de courant généralisée. Les compagnies de distribution d'électricité ont fait état d'un effondrement total du système après l'incendie d'une importante ligne de transmission. Alexandrine Holognon nous en dit plus.
Un incendie a provoqué une explosion sur une ligne de transmission reliant les centrales électriques de Kenji et de Djeba dans le centre-nord de l'État du Niger. L'incendie a été entièrement maîtrisé et plus de la moitié des connexions sont maintenant rétablies. Les autres le seront rapidement, selon une déclaration du ministre de l'électricité à Debayo Adelabou. La production d'électricité est tombée à zéro dans les premières heures, mais est remontée à 1341 MW à 14h GMT, toujours bien en dessous de la moyenne journalière de 4100 MW, selon les données de la Transmission Company of Nigeria, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le réseau électrique est irrégulier au Nigeria, ce qui oblige les ménages et les entreprises, y compris les sociétés pétrolières et les fabricants, à recourir à des générateurs au diesel et à l'essence. Le réseau s'est effondré au moins 4 fois en 2022, ce que les autorités ont attribué à des problèmes techniques.
En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Bouyakera, arrêté par la police le 8 septembre à Kinshasa, a été transféré jeudi en prison malgré des protestations et de nombreux appels à sa libération. Il est soupçonné de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations pour un article publié par Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre chérubin Okende, selon le site d'information actualité.cd, dont il est le directeur adjoint de publication. Les survivants des inondations qui ont ravagé la ville de Derna, dans le nord-est de la Libye, continuent de chercher leurs proches alors que des milliers de personnes sont mortes et des milliers d'autres sont encore portées disparues. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Un quart de la ville a été dévasté et le maire de Derna a estimé que 20 000 personnes pourraient avoir été tuées. Le bilan officiel de la catastrophe varie selon les autorités qui évoquent toutes néanmoins plusieurs milliers de morts dans le pays. Les autorités redoutent l'émergence d'une épidémie liée aux corps ensevelis sous les ruines. L'aide internationale s'est intensifiée aujourd'hui. Des équipes de secouristes sont arrivées d'Égypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, de Turquie et du Qatar, a indiqué Abdul Menam Al-Ghati. La Turquie a envoyé un navire transportant du matériel pour mettre en place deux hôpitaux de campagne. La France a annoncé qu'une équipe de 53 agents de la sécurité civile française sera en Libye et qu'un hôpital de campagne serait installé à Derna. L'OMS a débloqué 2 millions de dollars de fonds d'urgence pour venir en aide aux victimes.
Au Maroc, les secouristes ont intensifié leurs efforts pour venir en aide aux zones dévastées dans le Haut Atlas par le séisme qui a fait près de 3000 morts et plus de 5600 blessés. La Croix-Rouge allemande a annoncé l'annulation d'un vol devant acheminer des secours. Rabat a refusé certaines offres d'aide, mentionnant des défis logistiques. La Tunisie a interdit d'entrer sur son territoire une délégation du Parlement européen après les critiques d'eurodéputés sur un accord migratoire entre l'UE et Tunis. Cette délégation devait se rendre à Tunis aujourd'hui et rencontrer des membres de la société civile, des syndicalistes et des représentants de l'opposition tunisienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le compte à rebours touche à sa fin. À moins d'un accord de dernière minute, le puissant syndicat United Auto Workers s'apprête à lancer une grève chez les trois grands constructeurs automobiles américains. Le point avec Michel Joseph.
Nous avons dit aux entreprises depuis le début que le 14 septembre à minuit est une date butoir, pas un jalon, a déclaré Sean Fain, président du syndicat des travailleurs de l'automobile. En deux mois de négociations, les représentants de ce syndicat et les dirigeants des Big Three, General Motors, Ford et Stellantis, n'ont pu s'entendre sur le contenu d'une nouvelle convention collective de 4 ans. Le syndicat réclame un relèvement des salaires de 36% sur 4 ans. Les trois constructeurs de voitures proposent 20%. Les trois géants de Détroit ont aussi refusé d'accorder des jours de congés supplémentaires et d'augmenter les retraites. Mercredi soir, le directeur général de Ford, Jim Farley, a affirmé n'avoir pas reçu du syndicat de vraies contre-propositions. Sauf compromis de dernière minute, le syndicat prévoit d'annoncer ce soir, 22h de New York, quels sites seront touchés par des arrêts de travail. Le cabinet de conseil Anderson Economic Group estime qu'une grève de 10 jours pourrait représenter plus de 5 milliards de dollars de pertes pour l'économie américaine.
Toujours aux États-Unis, le président Joe Biden a déclaré hier mercredi ne pas se focaliser sur l'enquête pour sa mise en accusation menée par l'opposition républicaine au Congrès. Le point avec Nanit Talani.
Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il savait qu'il voulait me destituer. Je me lève tous les jours sans me focaliser sur la destitution. J'ai un travail à faire. Je dois m'occuper des problèmes qui affectent le peuple américain tous les jours, a déclaré M. Biden à propos de l'initiative des Républicains lors d'une soirée privée de collecte de fonds. Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a autorisé l'enquête pour sa mise en accusation mardi. Les Républicains accusent le dirigeant démocrate d'avoir menti sur son implication dans les affaires controversées de son fils à l'étranger, Hunter Biden. Il lui reproche aussi d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père, qui était alors vice-président entre 2009 et 2017. Ils n'ont trouvé aucune preuve, aucune, qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, a réagi Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche. Pour les démocrates, les efforts des républicains ne sont qu'un paravent pour occulter les démêlés judiciaires de l'ancien président Donald Trump.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Eric Manirakiza.
Chaque jour à Libreville, des retraités patientent de très longues heures dès l'aube devant leur caisse du bord de mer, au centre de la Caisse nationale de sécurité sociale de Batavia, au centre de la capitale, pour réclamer des pensions jamais payées, parfois depuis des années. Mais autrefois bredouilles et résignés après plusieurs heures sous une chaleur accablante, ils sont aujourd'hui des dizaines à patienter pleins d'espoir. Le général tombeur du président Ali Bongo Ondimba il y a 2 semaines a fait de la fin de leur carver sa toute première promesse. Le musée national du Bardo, un joyau du patrimoine tunisien, a rouvert jeudi ses portes au grand public, accueillant des dizaines de visiteurs tunisiens et des touristes 2 ans après sa fermeture en juillet 2021. Plus grand musée en Tunisie avec ses collections de mosaïques rares et logées dans un ancien palais bellical du 19e siècle, le musée du Bardo avait été fermé pour des travaux de réaménagement selon le ministère tunisien de la Culture. Le célèbre pullover de laine rouge et décoré de moutons porté par la princesse Diana en 1981, peu après ses fiançailles avec le prince Charles, a été vendu plus d'$1,1 million jeudi chez Sotheby's. La vente ouverte sur Internet depuis le 31 août s'est animée dans les toutes dernières minutes, faisant flamber le prix final de 200 000 à 1,1 million.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
On commence par Victor Osimhen qui est nommé pour le prix du joueur FIFA de l'année.
Oui, l'attaquant nigérian fait partie de la liste des joueurs en course pour le titre de FIFA des Best. La moitié des nommés pour ce trophée de meilleur joueur de l'année 2023 est issu de Manchester City, récompensant le triplé historique Coupe Championnat Ligue des Champions du club anglais. Les habituels Lionel Messi et Kylian Mbappé figurent aussi parmi les prétendants aux côtés d'Erling Haaland, Kevin De Bruyne ou encore Bernardo Silva, grand artisan de la saison royale des Citizens. Chez les femmes, aucune joueuse africaine n'est en lice. Pour le titre de meilleur gardien de l'année, le Camerounais André Onana de Manchester United est en compétition avec le Marocain Yacine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson du Brésil et Marc-André Ter Stegen de l'Allemagne.
Fin du mondial de rugby 2023 pour Malcolm Marx.
Le talonneur de l'Afrique du Sud, gravement touché à un genou, ne rejouera plus d'ici la fin de la Coupe du monde de rugby. C'est ce qu'a annoncé l'encadrement des champions du monde sortants, titulaire lors de la victoire inaugurale des Springboks dimanche dernier à Marseille contre l'Écosse, battue 18-3. Malcolm Marx, 29 ans, s'est blessé hier à l'entraînement alors qu'il ne devait pas participer au deuxième match de son équipe dimanche prochain à Bordeaux face à la Roumanie. Le staff sud-africain se donne jusqu'à la fin de la semaine avant d'annoncer le nom de son remplaçant dans le groupe des 33 joueurs pour le reste de la compétition.
Paul Pogba demande une contre-expertise après son contrôle positif à la testostérone.
C'est ce qu'indique une source ayant connaissance du dossier de l'international français de la Juventus Turin, suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. Paul Pogba, 30 ans, a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus. Le club piémontais a également suspendu le versement de son salaire. Selon la presse italienne, le résultat de la contre-expertise devrait être connu le 20 septembre.
Et enfin, des femmes arbitrent pour la première fois à la Coupe d'Asie des Nations.
L'annonce est faite par la Confédération asiatique de football. Parmi les 5 femmes arbitres retenues figure la japonaise Yoshimi Yamashita, qui était aussi présente au sein du corps arbitral lors du Mondial 2022 au Qatar. Par ailleurs, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée pour la première fois lors de ce tournoi continental qui réunira 24 équipes du 12 janvier au 10 février 2024. Pour accompagner le développement du football féminin, la Confédération asiatique de football a annoncé le mois dernier le lancement d'une ligue des champions féminines asiatiques dès l'an prochain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Le gouvernement français a décidé de suspendre la délivrance des visas aux étudiants et enseignants-chercheurs originaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette suspension intervient en pleine crise entre Paris et les autorités militaires qui dirigent les 10 pays. Mohamed Mfa a joint à Paris Joël Didier Ngo, président de Nous Pas Bouger, une association d'accompagnement légal et d'intégration des étrangers en France.
Je pense que cette décision s'intègre dans le cadre de la crise diplomatique actuellement entre la France et les pays du Sahel, dont le Burkina et surtout le Mali. Je ne vois pas que ce soit dans un autre cadre.
Alors, quel peut être l'impact pour les étudiants et les enseignants ressortissants de ces trois pays?
L'impact, il faut d'abord resituer les choses. Il faut savoir que depuis plusieurs années, des décennies déjà, la France restreint énormément les visas aux étudiants venant en France. Donc, pour tous ceux qui viennent en France ou trouvent les études, ils essuient des refus. Donc, ceux qui sont très touchés actuellement dans la mesure de restriction de visas prises par la France, ce sont essentiellement des étudiants de troisième cycle universitaire et ceux qui font des recherches, des études doctorales. Et en ce sens-là, la perte n'est pas simplement pour les pays d'Afrique noire, la perte est aussi française parce que les universités françaises ont besoin de toute cette matière grise-là dans les centres de recherche universitaires en France. Vous savez très bien qu'actuellement, les étudiants africains, ceux qui font le premier cycle universitaire, vont partout dans le monde, hein, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème maintenant, c'est que ceux qui vont se retrouver pénalisés, ce sont les chercheurs des deux côtés, les chercheurs français et les chercheurs africains de haut vol.
Alors, de quelle alternative disposent les personnes ciblées par cette mesure?
L'alternative est d'abord d'ordre juridique, hein, parce qu'il faut savoir qu'en France, lorsque vous essuyez un refus de visa, beaucoup d'Africains ne le savent pas souvent, il y a une possibilité de recours devant ce qu'on appelle la commission de refus des visas qui siège à Nantes. Pour cela, celui qui essuie un refus de visa devant une autorité consulaire en Afrique peut faire un recours à travers une association comme la nôtre. Nous nous portons garant, elle nous donne l'autorisation de faire un recours devant la commission de recours des visas. Dès que la décision est rendue, si le refus a été fait sur des bases qui étaient des bases arbitraires, la commission va rétablir le processus de visa et le consulat de France, quel que soit le pays, va s'y plier. C'est d'abord la première voie. L'autre voie est que les institutions universitaires en elles-mêmes peuvent aussi faire des pressions sur les autorités françaises à ce que les programmes de recherche ne soient pas pénalisés. Et les universités ont cette possibilité-là. Pour le reste, les autres visas qui sont des visas touristiques, des visas y compris pour des officiels africains, là, c'est du domaine discrétionnaire sur lequel on n'a pas de très grande marge de manœuvre.
Joël Didier Ngo, président de l'association Nous Pas Bouger. La France a donc suspendu jusqu'à nouvel ordre toute coopération universitaire avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, tous les projets de coopération qui sont menés par les établissements ou services français avec des institutions ou ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus sans délai et sans aucune exception. Yacouba Ouédraogo a joint à New York Mamadou Diouf, professeur d'histoire et d'études africaines à Columbia University.
Cette coopération universitaire est en train de subir, si vous voulez, les mêmes effets qui sont les effets dus à la crise. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette coopération universitaire, depuis à peu près deux décennies, était en déclin. C'est-à-dire la difficulté de circuler dans l'espace francophone pour les étudiants et les chercheurs africains est une donnée permanente depuis deux décennies. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que même du temps de la guerre froide, aussi bien les Américains que les Soviétiques trouvaient plus ou moins des mécanismes qui permettaient une circulation pas très importante, mais une circulation des intellectuels, ce qui veut dire que la crise ne peut pas être la justification d'un arrêt de quelque chose qui est essentiel dans la production du savoir.
Dans cette situation, qui paie ?
Les Africains ont de moins en moins accès aux institutions, à la documentation existante en Europe. Donc ça, ce n'est que la formalisation, si vous voulez, et l'aggravation d'un état de fait. La deuxième chose qui perd, c'est la production de savoir qui perd. Aussi bien les Africains vont perdre que les Européens, mais les Français dans ce cas-ci. Mais ce qui est clair, c'est que là aussi, depuis trois décennies au moins, les Africains se sont dotés des infrastructures et des ressources humaines pour former leurs universitaires et pour créer un environnement dans lequel ils peuvent faire leurs recherches, dans lequel ils peuvent échanger. Donc ce qu'il faut aujourd'hui aux Africains, en particulier aux Africains francophones face à cette situation, c'est de créer un espace de coopération universitaire alternative, c'est-à-dire qu'ils les mettraient ensemble et les ressources pour travailler. Mais il est très clair que la formation des universitaires africains francophones aujourd'hui ne dépend pas seulement de la France, dépend moins, beaucoup moins de la France que dans le passé.
Justement, est-ce que les universitaires africains et les universités surtout sont équipés pour se passer de cette coopération universitaire internationale, pas seulement que la France?
Cette coopération est très, très, très importante. Si cette coopération est importante, elle n'est pas le fait de la gentillesse, entre guillemets, des partenaires. C'est parce que les universitaires africains, les chercheurs africains sont capables de s'imposer sur l'espace international. On a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de cet espace. Parce que c'est ça la logique de la recherche scientifique.
Mahamadou Diouf, professeur d'histoire et d'études africaines à Columbia University.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la commune du Loroum, dans le nord, est l'une des plus touchées depuis le début de la crise sécuritaire. Dans cette partie du territoire, de nombreuses écoles ont été contraintes de fermer. C'est le cas de l'école où enseignait Koti Mouedraogo, qui a fui la localité avec tous ses élèves. La suite de son histoire est un cas d'abnégation qui a conduit ses élèves au succès scolaire. Un reportage de Gilles Dasda à Wahi Gouya.
L'hymne national du Burkina entonné par des élèves déplacés internes. Nous sommes dans un quartier périphérique de Wahi Gouya. Ces élèves sont venus principalement de la province du Loroum et leur enseignante qui a fui avec eux a une histoire bien singulière. Tout commence en 2018 dans la province avec des attaques terroristes dans de nombreux villages. Puis vient le tour de Windigi, localité où Koti Mouedraogo enseignait.
Windigi a été attaqué et s'est vidé de sa population. Et nous avons laissé derrière nous des corps sans vie. On travaillait jusqu'au jour de l'attaque. Donc si les enfants ne terminaient pas l'année scolaire, c'est comme si c'était le risque même qu'on a couru, c'était comme si c'était zéro. Donc je suis venue à Wahi Gouya avec elle trouver un local.
C'est dans cette salle donnée gratuitement par un privé que ses élèves vont prendre leur quartier. Elle sert de dortoir la nuit et la journée, c'est une salle de classe. Dans cette même salle, Koti enseigne concomitamment 23 élèves du CM1 et 44 du CM2. Cela s'appelle une classe multigrade. Et les 44 élèves du CM2 seront tous admis au certificat d'études primaires en 2022. Ce qui voit l'enseignante une reconnaissance au plan national. Cette année, elle réitère presque le même exploit avec plus de 98% de taux de réussite au CEP. Et ses succès engrangés, elle les doit à une raison.
Comme les enfants étaient sur place, je suis devenue comme une maman pour eux.
De bons résultats obtenus grâce à des enseignants qui font preuve de résilience dans le contexte sécuritaire d'une des provinces les plus touchées par les attaques terroristes. Dans son combat pour l'éducation, l'enseignante peut compter sur le soutien de ses supérieurs hiérarchiques. Mahamadi Koudougou est directeur provincial de l'enseignement primaire du Louroum, la province d'où viennent Kotine et ses élèves. Du fait de l'insécurité, il a dû lui aussi quitter cette localité. Désormais, ses bureaux sont à Waïguia. Il est admiratif de celle qu'on surnomme l'Amazone.
Il s'est véritablement investi, il s'est déployé sur le plan physique, sur le plan pédagogique, peut-être même en termes de finances.
Les élèves de la province du Louroum arrivent en tête de la région du Nord avec un taux de réussite au CEP de plus de 85%. Des enseignants comme Kotim Ouedraogo y ont sans doute contribué fortement en dépit de la dure épreuve qui les frappe. Gildas Dat de retour de Waïguia, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les experts dans le domaine des infrastructures estiment que les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe doivent accélérer l'exécution des accords déjà signés, faute de quoi le développement régional serait illusoire. Les ministres des infrastructures viennent de clôturer une réunion de 3 jours à Kigali, au Rwanda.
Les difficultés dans les échanges commerciaux entre pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, un faible niveau d'électrification sont autant de domaines qui laissent beaucoup à désirer entre pays de l'organisation sous-régionale. Pour Damien Mouzoun, analyste politique originaire du Bénin, les pays africains en général ne doivent pas se contenter de signer des accords qui restent lettres mortes.
L'Afrique reste quand même fragmentée, isolée. Et au lieu que ces projets ne soient pas seulement des signatures ou des décisions partisanes, on n'arrive pas à prendre des résolutions pour que, après ce genre de réunion, chacun agisse pour que ces projets s'exécutent.
Les conflits armés sont également pointés du doigt comme défi majeur à l'intégration sous-régionale. Pour Léocadi Ndachaïsaba, ministre burundaise en charge de la communication et des technologies, les pays africains doivent surmonter les différends et travailler ensemble.
Il est donc impératif que tous les États membres du COMESA unissent leurs efforts pour rechercher et résoudre les questions d'infrastructure. Ensemble, nous pouvons coopérer efficacement et apporter le développement tant désiré grâce à la confiance que les citoyens de la région ont placé à nous.
Pour les observateurs, il serait illusoire de parler d'intégration régionale, alors que les voyages sont très difficiles entre pays africains.
Je dis souvent que les Africains ne sont pas aussi divisés que nous sommes déconnectés. Nous ne nous connaissons pas. Et déjà, même les voyages entre les pays africains, non seulement c'est cher, c'est très difficile. Et c'est eux d'ailleurs qui gèrent les aéroports, c'est ces ministres d'infrastructure qui doivent quand même agir pour l'intégration réelle à la base du continent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même parfois même quitter Kigali pour Bujumbura, vous dépensez peut-être $900 si vous voulez aller par avion.
Réunis à Kigali, les ministres en charge des infrastructures au sein du COMESA ont mis un accent sur la nécessité de passer à l'acte pour mieux développer les pays membres. Ouassé Patrici est secrétaire d'État au ministère rwandais des infrastructures.
Il est toujours très cher et presque impossible de voyager par avion en Afrique. Nous avons ici une plateforme des ministres et décideurs politiques pour discuter encore là-dessus.
Les statistiques fournies par le marché commun de l'Afrique orientale et australe montrent que le taux de développement des infrastructures dans la plupart des pays membres restait faible, ce qui pourrait retarder la réalisation des projections de la communauté en matière d'intégration régionale et de développement. Jean-Damasen Manichimye pour VOA Afrique, Kigali.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.